Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Salima et Darcy accueillent au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bonjour, c'est la première de Raise by Mobiskill. Je suis Darcy, accompagnée de mon acolyte Salima. Pour ce premier épisode, nous accueillons Stéphanie, CTO chez Matrice. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Super. Bon, on va pouvoir enchaîner sur les premières questions qui sont très faciles, donc je laisse la main à Salima.
Salut Stéphanie, merci de nous accueillir. Écoute Stéphanie, côté food, plutôt burger ou salade de quinoa ?
Ça dépend des jours. J'aime bien les deux, j'ai pas de préférence.
Ok. Côté woman attitude, tu ressens plus à Wonder Woman ou à Jeanne d'Arc?
Je dirais à la maison pour mon fils Wonder Woman. Sinon, j'aime bien l'effet Jeanne d'Arc et ce qu'elle a accompli.
Super. Bon, parlons un peu sport. Body combat ou pilates?
Body combat.
Ok. Sinon, au taf, plutôt télétravail ou vacances illimitées pour tes collaborateurs?
Vacances illimitées pour mes collaborateurs.
Et pour toi aussi, du coup.
Je pense que si on commence par le télétravail, après, j'aime bien aussi venir au travail sur place pour voir mes collaborateurs.
D'accord. Ok, super. Management plutôt technique pour toi ou plutôt manager-coach?
Je pense que manager-coach, ça passe d'abord par entraîner ses équipes, les former. Beaucoup moins technique. Après, selon les projets, bien sûr, il faut garder un côté technique.
D'accord.
Là, c'est moi qui arrive plus.
T'es parfaite, Stéphanie. Et enfin, inclusion ou diversité?
La diversité. Diversité égale inclusion.
Je crois qu'elle a le mot de la fin.
Ouais. Super. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, très facile. Présente-toi en deux mots. Nom, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie.
Alors, moi, c'est Stéphanie Dur. Je viens à l'origine de Franche-Comté. Aujourd'hui, je suis à Paris. Et ce que je fais dans la tech, je suis CTO dans un organisme de formation.
Super. Que voulais-tu faire comme métier quand tu avais 6 ans?
Je voulais être avocate.
Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai arrêté l'école quand j'avais 17 ans. Je pense que j'ai fait ma crise d'adolescence. Ensuite, j'ai eu un enfant à 20 ans. Et donc, c'était un peu difficile de reprendre les études après tout ça. Donc voilà.
Donc on est allé vers la tech. D'où t'es venue l'envie d'être dev? Qu'est-ce qui a été le déclic? On veut tout savoir. Raconte-nous.
Alors en fait, moi je suis passée par l'école 42. À l'origine, c'est la piscine de 42 où je me suis inscrite sans forcément avoir l'envie d'être développeuse, juste parce qu'on m'avait lancé un challenge. Enfin, on m'avait dit que je n'y arriverais pas. Et en fait, à partir du moment où on me dit que je n'arriverais pas à faire quelque chose, il faut absolument que je le réussisse. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en piscine à 42. Pendant cette piscine, le côté challengeant des deadlines, l'aspect résoudre les problèmes, résoudre le code, etc., ça m'a transportée en fait. Et moi à l'époque, je travaillais à l'usine de nuit, donc rien de très, très motivant intellectuellement, même si j'ai beaucoup appris de ces expériences-là. Mais c'est vrai que je me suis découvert une véritable passion et je me suis dit, si j'en fais mon métier, tous les jours, je vais m'amuser. Et c'est ça qui m'a guidée dans ma reconversion, avec aussi l'aspect, il faut le dire, de la possibilité dans la carrière l'aspect financier que représente le métier.
T'as mis combien de temps, toi, pour compléter, en fait, 42 ?
Alors, compléter au sens du diplôme, j'attends toujours... j'ai pas pris le temps de passer le diplôme. J'ai d'ailleurs toujours ma vidéo de stage qui est en attente. Compléter au sens des compétences. Ouais. Moi, je suis sortie de 42 au bout d'un an, je crois, un an et demi. Après, ça a été vraiment beaucoup de travail. Je travaillais 90 heures par semaine. J'ai vraiment enchaîné tous les projets. J'avais un enjeu de terminer assez rapidement et de retourner très rapidement sur le monde de l'emploi, parce que comme j'ai dit, j'ai eu un enfant à 20 ans, donc j'avais besoin d'aller travailler. C'est pour ça que j'ai fait tout ça très rapidement.
D'accord. Et alors, justement, pourquoi 42 ? Parce que des écoles qui permettent une reconversion vers la tech, il y en a plusieurs. Pourquoi 42 et comment tu as vécu le processus de sélection ?
Alors, 42, parce que sinon, je ne me serais jamais tournée vers la tech sans ce challenge de « t'arriveras pas à faire la piscine ». Et après, parce que c'était facile pour moi. Le cursus qu'ils apportent, c'est un cursus qui est détemporalisé. Donc, on peut avancer autant qu'on veut, aussi rapidement qu'on veut. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à le faire en seulement un an et demi. Également parce que il y a de la flexibilité dans les horaires, donc j'étais assez tranquille avec mon fils, et parce que c'est une école qui est gratuite. Il faut dire que reprendre ses études, aller dans une école à Ivy Tech ou autre, ça a un coût quand même, et ça, ce coût-là, on ne l'a pas à 42.
Si on parle un peu plus maintenant de ta vie pro, c'est quoi ton goal, tu vois, le job que tu vises et où tu pourras te dire ça y est, ça je l'ai fait. J'ai réussi.
Je pense qu'aujourd'hui, je suis déjà dans... Enfin, il y a quand même un aspect métier idéal dans ce que je fais. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner les gens, de leur fournir quelque chose. Moi, je suis CTO dans un organisme de formation. Donc, ce qu'on fait, c'est pas seulement développer des produits, même si on le fait aussi en interne. On a des formations au développement et à la gestion de projet, on a des formations à l'entrepreneuriat. Et donc on construit ces formations pour transformer nos apprenants. On les accompagne aussi pendant toute la formation. Je sais pas, quand vous avez vu quand vous êtes arrivés, il y a un côté très proche avec nos apprenants, les voir changer, arriver avec un mindset et les voir ressortir avec une ouverture d'esprit, enfin, qu'ils soient contents, qu'ils aient accompli quelque chose. C'est vraiment ça qui m'anime, et à mon avis, je suis un peu là où j'avais envie d'être au départ.
D'accord. C'est vrai qu'on a switché très très vite sur où t'en es aujourd'hui, mais quand même, parce qu'on est curieux, hein, chez Mobiskill, et on est curieuse, Darcy et moi, quand même, on aimerait bien que tu nous racontes une anecdote sur quelque chose qui t'a marqué justement pendant cette période d'études à 42.
Alors là, c'est compliqué. Quelque chose qui m'a marqué pendant ma période d'études.
Une petite anecdote, quelque chose d'un peu saugrenu.
Alors, comme on est dans la parité homme-femme, je vais prendre celle-ci. Moi, quand j'ai réussi 42, une fois, je me suis retrouvée en correction, et une personne n'était pas d'accord avec moi sur sur l'objet de l'exercice. Et cette personne m'a dit, mais en fait, de toute façon, tu sais rien faire, toi, t'es là parce que t'es une femme. Ce à quoi j'ai répondu, bah écoute, moi j'ai été prise, mon copain de l'époque également a été pris, et j'avais de meilleurs résultats que lui, donc je pense que je ne suis pas là parce que je suis une femme.
Bon, super. S'il t'écoute aujourd'hui, il sera ravi de ton commentaire. Ouais.
Et t'en as vécu, j'imagine, d'autres, des scènes comme ça à 42 et puis ailleurs, ouais.
C'est vrai qu'il y a cette notion de t'es là parce que t'es une femme. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, la discrimination positive, etc. On va peut-être le passer. Mais ça fait planer le doute sur la compétence technique des femmes. En tout cas, tout du moins dans les écoles, justement, parce qu'il y a de la discrimination positive. Après, très rapidement, puisque 42, c'est quand même une école très, très communautaire, j'avais plus ces réactions. Il suffit de montrer qu'on est là, qu'on en veut et qu'on sait faire aussi. Merci.
passer à une question un peu plus joyeuse ou non. Raconte-nous en fait ton premier jour dans ton premier job de développeuse.
Mon premier jour en tant que développeuse, c'était en freelance. Et c'était d'ailleurs sans développeur pour m'accompagner. J'ai repris un site internet existant avec du coup un responsable qui n'y connaissait rien au code. Et il a fallu voir un petit peu comment ça se passait et aller toucher au code de quelqu'un d'autre sans avoir une ressource au-dessus de soi pour s'appuyer.
Donc tu étais la seule tech dans l'équipe.
C'est ça.
Ok, pas de CTO, rien du tout, et il fallait y aller, quoi.
C'est ça. Okay.
Et c'était quoi comme type de boîte, sans citer de nom, évidemment, mais c'était dans quel domaine?
C'était une chaîne de restauration, c'était pour développer leur site internet.
Ok. Et pourquoi en freelance?
Le freelance m'a attirée assez rapidement, parce que j'avais cette facilité de gagner de l'argent, en même temps d'avoir des horaires flexibles pour mon fils. C'est vrai que du coup avec 42 j'y avais pris goût, et ajouter une nounou et tout ça dans l'équation, c'était difficile au départ.
Comment tu as fait pour avoir le poste que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi toi?
Matrice, depuis le début, depuis sa création, j'accompagne Matrice en tant que bénévole. À l'origine, plus sur de l'accompagnement d'étudiants. Mmh. Quand j'étais au sein de l'école 42, j'accompagnais les partenariats. Très rapidement, je suis restée au sein de l'écosystème, donc en tant que freelance, sur de l'accompagnement des équipes sur la tech et de la logistique, parce qu'à côté, je travaillais à mi-temps pour Matrice. Et rapidement, le directeur de Matrice, ça faisait longtemps que le directeur de Matrice voulait que je rentre en poste, voulait également que je fasse du dev et que je prenne une position de dev. Le CTO, qui était anciennement à ma place, qui d'ailleurs fait toujours partie de notre équipe, travaillait lui essentiellement en télétravail, sauf que Matrice grossissait énormément et qu'il y avait un besoin d'avoir une personne qui puisse avoir une vision globale et qui puisse donner des solutions, puisqu'on fait beaucoup d'innovation, donc des solutions pertinentes à nos partenaires en prenant tous les aspects de la tech. Et quand on développe nos outils, avoir aussi une vision terrain. Donc être capable d'avoir des outils qui ne soient pas seulement techniques, mais qui soient des vrais outils accès utilisateur, produits, terrain. Et c'est là que il m'a proposé du coup de rentrer en tant que CTO au sein de Matrice.
Ça fait combien de temps aujourd'hui?
Alors j'accompagne le projet Matrice depuis sa création, donc même avant qu'on pose les statuts de l'association en 2016. Je suis rentrée en tant que CTO en octobre 2018.
Et donc du coup là, en 2-3 ans, c'est quoi le truc qui te rend le plus fier de ce que tu as fait là?
Alors j'ai fait beaucoup de choses. Au départ, ma mission en tant que CTO, c'était uniquement de développer nos outils, donc notre intranet, et d'automatiser les tâches du staff. Et en janvier 2018, j'ai reçu un mail de mon directeur général qui m'a dit « Et si on formait, nous, des développeurs à la gestion de projet, et qu'on donnait aussi la possibilité aux étudiants d'autres écoles de venir se former à la gestion de projet ?» Et donc il m'a lancé ce mail en janvier 2018, et en janvier 2019, on lançait notre première promotion avec du coup un programme de formation de 10 mois. Et en mars 2019, cette formation était diplômante par un diplôme universitaire. Donc en un an, on est passé, mon pôle en tout cas, est passé de faire de la tech à faire de la tech et de la pédagogie pour former des développeurs et des chefs de projet.
C'est génial, il y a de quoi être fier.
Ouais.
Et il y a combien d'apprenants par session, par année?
Alors là, on a lancé notre première promo en janvier, donc avec une vingtaine d'apprenants. On a eu 4 apprenants qui ont arrêté pendant le confinement. Et on a notre prochaine promotion qui se lance le 16 novembre avec 50 apprenants. Notre formation d'ailleurs s'appelle Tech Manager. Et d'ailleurs, donc ça c'est la formation sur le développement et la conception de projets, mais vraiment développement front-back. Et en mars, parce qu'on a gagné deux appels à projets, hein, un appel à projet avec Tech Manager pour nous permettre de financer la formation. Et en mars, on en lance une autre, axée front. Donc elle s'appellera Tech Manager Front avec du design, donc beaucoup plus axée conception, expérience utilisateur. Et là, on prendra 25 apprenants à ce moment-là.
Ok. Et la formation fonctionne comme à 42 ou c'est du peer-to-peer ou... Des profs donnent des cours, tu donnes des cours peut-être ?
Alors c'est différent, c'est pas, on n'a pas volonté de remplacer 42 et au contraire on ne forme pas les mêmes types de profils. L'objectif c'est de former des personnes qui seront capables de faire de la chefferie de projet derrière. La formation est différente dans la temporalité, c'est une formation en 10 mois. C'est différent aussi dans l'accompagnement, c'est maximum 25 personnes pour un mentor attitré. Qui va accompagner les étudiants au quotidien dans leurs problématiques techniques. On a également ce qu'on appelle chez nous un tisseur qui est là pour accompagner les apprenants dans leurs difficultés familiales, mais aussi dans la projection de leur projet professionnel, comment est-ce qu'ils se voient dans l'avenir. Et c'est aussi différent parce qu'il y a une partie universitaire, donc il y a une partie de la formation qu'on a construite avec l'Université Saint-Quentin. Autour du management. Donc il y a aussi de la théorie qu'on leur fait mettre en pratique derrière. On leur demande d'utiliser des méthodologies comme le Scrum, le Kanban. On leur fait des cours et derrière, tout de suite, il faut qu'ils le mettent en application sur un projet. Donc ils ont la conférence au début du projet et il faut qu'ils le documentent et ils sont évalués dessus. Donc il n'y a pas... Enfin, la dimension technique, on va dire que c'est... 30 à 40% et le reste prend toute la formation.
Ouais, beaucoup de soft skills et OK. Et toi tu donnes des cours aussi ou pas?
Alors moi j'interviens, déjà j'accompagne les étudiants parce que c'est aussi si c'est ce qui m'anime, je pense que je serais déçue de plus avoir ce contact avec les étudiants. On a également par exemple les cours sur l'écologie et le numérique. Où là, je vais animer ces débats-là auprès des étudiants, sur l'accessibilité aussi. Et après, beaucoup de temps d'animation et de workshop. Enfin, ce n'est pas des cours en amphithéâtre, c'est toujours des temps courts. On prend le temps d'expliquer aux étudiants et de vérifier qu'ils ont compris. Donc, on se partage un petit peu les tâches sur les thématiques et aussi selon nos compétences au sein de l'équipe.
Ça donne très très envie en tout cas. Bon, on va revenir quand même un petit peu à toi.
À toi, ouais. Et plutôt aussi au fait que tu as 30 ans aujourd'hui, tu es CTO. Donc tu manages l'équipe, je suppose. Si on rencontrait un membre de cette équipe justement et on lui demandait quel manager est Stéphanie, qu'est-ce que cette personne nous dirait ?
Je pense que je savais ce que tu allais dire, parce que du coup, j'ai posé la question à un membre de mon équipe.
Super.
Et ce qu'il a dit, c'est que j'étais non linéaire, conciliante, à l'écoute des équipes et que je ne faisais jamais rien sans réflexion. Et bien sûr, je pense qu'il ne veut pas se faire virer. Non. À mon sens, moi, j'ai... J'ai un management plus horizontal. J'aime prendre en compte ce que mes équipes pensent. Et ça arrive souvent, même si j'ai très, très souvent raison, ça arrive quand même très souvent que ce soit eux qui aient raison. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ces équipes, être à l'écoute aussi parfois de la surcharge, parce qu'on ne fait pas tout ça en un an sans forcément avoir aussi une charge de travail importante. Être capable aussi de se remettre en question. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand on fait une réunion avec d'autres personnes où le sujet est un peu plus technique et on est toute l'équipe tech du coup à discuter, à challenger nos idées, on s'affuse dans tous les sens. Mais tous au même niveau, c'est pas je prends la parole et je pose les questions, c'est vraiment très brainstorming. Et sachant que dans d'autres équipes, ça se fait plus... plus en mode cahier, je dis moi en tant que chef et derrière vous devez trouver par rapport à ma position. Moi j'aime être challengée, j'aime mettre mes idées à l'épreuve, changer d'idée aussi des fois si on m'apporte
la
preuve que ce que je pensais était faux.
Ok. Et alors, selon toi, ça apporte quoi ce management très horizontal? Qu'est-ce que ça apporte à tes équipes? Qu'est-ce que ça t'apporte aussi à toi aussi en tant que manager?
Je pense que à mes équipes, ça apporte de l'engagement. Ils se sentent écoutés et responsabilisés aussi, parce que je suis pas la seule à tenir les projets qu'on tient. Et donc il y a une sorte aussi de gratification qui est partagée quand le management il est horizontal, on prend pas les lauriers pour soi uniquement. Ça apporte aussi plus de travail, plus d'engagement, donc plus de travail, et on fait les choses de manière plus qualitative. Ensuite, à moi, ça m'apporte... Je pense que quand on est capable, avec ses équipes, d'avoir un management horizontal qui soit pas non plus de l'ordre de... Enfin, il y a quand même une hiérarchie chez nous, et quand je dis que les choses sont pas bien faites, il faut aussi l'entendre. Mais quand on arrive à le faire correctement, on arrive à créer des choses qui sont plus grandes, plus ambitieuses, et puis à les mettre en application. Et le fait d'avoir une dynamique d'équipe et pas quelque chose qui soit vertical avec un dispatch des tâches qui soit, je sais pas comment on dit le mot, arbitraire, je décide qui fait quoi. On a forcément des projets qu'on réalise qui sont plus grands.
Bon, on est entre nous, hein, entre femmes. Est-ce que c'est pas difficile de manager une équipe majoritairement constituée d'hommes? Parlons-en quand même.
C'est vrai, faut en parler.
Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup, et d'ailleurs même mes étudiants m'appellent maman. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est ultra négatif. Peut-être que des personnes qui prennent du recul diraient que c'est pas vraiment bien dans un cadre professionnel. Moi, je trouve pas ça difficile. J'ai évolué dans un milieu masculin. D'ailleurs, j'ai plus d'amis hommes que d'amis femmes. Ça change pas. Que ce soit des hommes, des femmes, la parité, pas la parité, on a une promotion d'étudiants où là on a quasiment moitié-moitié. Je trouve pas ça vraiment très différent par rapport à si on avait des femmes.
D'accord. Et dans ton recrutement, le fait d'être. Est-ce que tu fais une emphase particulière sur justement recruter des femmes pour constituer ton équipe? Ouais.
Alors, je pense que la parité est importante, mais il ne faut pas qu'elle soit au détriment de la qualité. Que ce soit dans le recrutement des apprenants ou dans le recrutement des personnes qui vont accompagner les étudiants. Si un homme a plus de qualité qu'une femme, je ne vais pas choisir de prendre la femme parce que c'est une femme. En revanche, je pense que les femmes ont certaines qualités dont on a besoin dans une équipe. Je pense qu'une femme apporte ce côté chef de famille, chef d'orchestre qu'elle sait faire à la maison, qu'elle a été formée à faire parce qu'elle le souhaite. Elle apporte aussi cette capacité d'écoute qui est différente chez une femme que chez un homme. Donc selon les compétences, les qualifications, par contre, je ne ferai pas de discrimination.
Ouais, si tu mérites et si tu es bon, tu es là, et sinon...
C'est ça.
Tu viens pas chez Stéphanie. Ok, merci, je te laisse poursuivre.
Alors, donc, finalement, tu es une femme dans la tech, et... Est-ce que toi, tu penses que tu vas rencontrer les mêmes difficultés, les mêmes peurs et les mêmes frustrations qu'un homme? Qu'est-ce qui fait la différence de ton point de vue?
Moi, je pense que j'ai plus de facilité qu'un homme. Être une femme dans la tech, déjà, on est plus remarquée, forcément, vu qu'on évolue dans un milieu masculin. Je pense qu'effectivement, il y a un côté, la réputation des femmes dans la tech... Et pas la meilleure. Et je pense que ça, c'est à nous de la changer. C'est aussi, à mon sens, et peut-être que je vais être critiquée sur le sujet, mais en arrêtant la discrimination exactement, en ne mettant pas des femmes qui n'ont rien à faire dans la tech, et ce qui nous permettra d'augmenter la réputation des femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui savent faire les choses. Et je ne sais pas quoi dire de plus.
Bah, c'est très bien. C'est parfait.
Je me suis perdue.
Ah non, mais c'est très très bien. Et là, si tu dois nous citer trois avantages d'être une femme dans la tech, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?
Notre capacité d'écoute. Et donc ça marche partout dans la construction de produits, dans l'écoute des équipes, de ses collègues, des apprenants quand on fait de la formation. Notre capacité à être résiliente et à se remettre en question, à mon sens une femme fait ça tout le temps. Et une troisième chose,
j'ai une idée en tête mais je vais pas la dire.
Notre capacité à être écoutée. Forcément, étant donné qu'on est une femme dans un milieu masculin, on est plus souvent écoutée.
Parfait.
Mais c'est discutable, mais parce qu'on a eu beaucoup de tes homologues qui n'ont pas forcément ce sentiment-là. Mais c'est super intéressant d'avoir ce point de vue. Qu'est-ce qui te fait avoir ce point de vue ? Est-ce que toi, tu as des exemples ? Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, te fait nous dire que justement tu t'imposes de par ta féminité, pas tu peux être écoutée parce que tu es une femme.
Ben, je pense que c'est le tout, c'est notre capacité à écouter qui va nous permettre de sortir des solutions, des avis qui sont pertinents. Et à partir du moment où ton avis il est pertinent, il a de l'impact. Il y a aussi la façon de le dire. Si tu le dis, si tu donnes ton avis ou ton point de vue de manière très directe, très en mode dictature, on t'écoutera pas. Par contre, si tu expliques et amènes les gens à comprendre ce que tu veux dire et à rejoindre ton point de vue, là, t'es plus écouté. Après, il y a aussi l'entretien de tout cela. Parce que si, pour être écouté dans la tech, dans tes équipes, il faut qu'ils apprennent à te faire confiance. Et donc, il faut montrer aussi que tu as confiance en toi, que tu sais faire et que comme tu sais faire, tu dois être écouté.
Nous, on a eu d'autres témoignages de femmes qui nous disaient que parfois elles étaient en réunion. Et qu'elle balançait une idée pendant la réunion et que personne, enfin en tout cas que les hommes ne les écoutaient pas et que l'idée derrière était reprise par un homme et puis là magie c'est l'idée du siècle etc. Mais en fait qu'on ne donnait pas en fait le crédit qui se doit à la personne qui a donné l'idée de base.
Moi je pense qu'il faut défendre son idée. À mon avis c'est pas spécialement qu'on soit une femme ou un homme. Mm-hmm. Je pense que c'est la différence est dans comment l'homme a amené l'idée. Parce que c'est facile de dire et si on faisait une plateforme pour fluidifier le recrutement, puisque je suis en plein dedans, donc voilà, il me faut une idée. J'ai deux hommes différents dans nos équipes, parce que du coup, c'est au sein de Matrice qu'ils l'ont dit. Le premier l'a dit à l'état d'idée, ce serait bien qu'on ait une plateforme pour fluidifier tout ça. Le deuxième est arrivé avec des slides, avec un produit qui est construit, en disant voilà la charge que ça nous enverrait, ça nous enlèverait. Et forcément, cette idée a été prise, mais elle n'a pas été prise au moment où elle a été dit par le premier collaborateur, elle a été prise au moment où il y avait des faits qui appuyaient le besoin.
Parfait. Super.
J'aime beaucoup cette réponse.
Parce qu'il n'y avait pas de femme dans l'équation.
Non, mais le fait, effectivement. Stéphanie, je crois que tu as le bonheur, la chance d'être mère.
Oui.
Tu nous l'as dit. On entame. C'est quoi ton secret, tu vois, pour avoir un équilibre vie pro, vie privée et savoir, tu vois, ok, là, il faut que je m'arrête, quoi.
Alors, j'en ai pas, parce que j'ai pas d'équilibre.
on pensait que tu allais nous donner la recette magique pour chacune d'entre nous. Mais bon, allez.
Je pense que c'est très difficile, surtout quand on arrive dans des postes à responsabilité, qu'on a un véritable engagement, des deadlines qui sont serrés. Moi, je me suis reconvertie en 2014, donc ça fait pas si longtemps. Enfin, je suis rentrée à l'école en 2014, donc il a fallu que je travaille beaucoup pour arriver là où j'en suis. Et donc, le travail a été une part très importante, et c'est d'ailleurs un des problèmes que j'essaye de résoudre aujourd'hui, c'est la faculté de laisser le travail au travail, et de ne pas avoir une charge mentale qui pollue mon esprit quand je suis à la maison. Après, j'ai aussi un petit garçon qui a 10 ans et qui me dit très souvent « Maman, là, stop, c'est l'heure d'arrêter de travailler. » Et j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui fait la cuisine et le café le matin.
Incroyable.
Donc le secret, c'est éduquer votre enfant, rendez-le très très vite autonome.
Je pense que c'est passer du temps avec eux. Moi, j'ai mis un point d'honneur à faire passer mon fils en premier. J'ai eu d'ailleurs des problématiques sur le télétravail tous les mercredis. Mon fils est déjà à l'école jusqu'à 18h tous les soirs. Le mercredi après-midi, il reste avec moi. Ça a été un terrain d'affrontement, vraiment, avec mon supérieur. Sauf que c'est comme ça, c'est ma priorité. Je le vois déjà pas souvent. Déjà, même à la maison, je travaille. Il m'arrivait aussi de travailler le week-end quand j'avais des dossiers à boucler. Il y a la priorité à donner et montrer qu'on est là, on fait notre travail, mais aussi penser qu'à la maison, il y a des choses qui nous attendent. Moi, j'avoue que je travaille aussi devant la télé, ce genre de choses. Et juste la proximité, ça fait sentir bien pour la vie de famille.
Super. Justement, à ton fils, que tu as envie de ton parcours. Alors, il n'est pas terminé, hein, parce que tu as 30 ans. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne de ce que tu accomplis au jour le jour?
Je sais pas. Je pense qu'il retient déjà beaucoup de choses parce qu'il est souvent ici, de l'exemplarité et se tourner vers ce qu'il a envie de faire vraiment. Et c'est d'ailleurs une grande question chez lui en ce moment. Il est en train de faire un business plan pour devenir YouTuber. Et donc, à regarder combien coûte le matériel, s'il va réussir à l'obtenir avec son argent de poche et tout ça, combien il faut qu'il ait à Noël. C'est faire ce qu'il a envie de faire et qu'il comprenne, qu'il voit que je suis heureuse parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis CTO dans une association à but non lucratif, donc je n'ai pas le salaire le plus élevé que je pourrais avoir sur le marché. Mais à contrario, ça m'anime, je suis engagée parce que ce que je fais au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui a de l'impact aussi, parce que quand on a un impact sur la société, on peut valoriser son emploi.
Eh bien, voilà un petit garçon qui a bien de la chance d'avoir la mère qu'il a. je crois aussi que tu as consacré, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, une partie de ton temps à un projet entrepreneurial. Mm-hmm. Donc, le lancement d'une appli, est-ce que tu peux nous en parler,
Stéphanie? Oui. Alors, quand j'ai arrêté 42, c'était lié à ce projet-là. En fait, on avait décidé avec l'ancien directeur de 42, Kwam, et sa sœur et un autre de leurs collègues qui était pédopsychiatre, de faire une application sur la grossesse. Il était venu me chercher parce que j'étais maman et mon fils était tout le temps dans l'école d'ailleurs. Et on s'est dit, à nous quatre, on peut faire quelque chose de très intéressant. Donc on a commencé par faire une application sur laquelle tu as un questionnaire que tu remplis et tu peux savoir si tu es à risque ou pas. Donc si ta grossesse est à risque gynécologique, donc avec tes antécédents médicaux, à risque également sur le côté psychologique, à risque de dépression du postpartum. Donc on a travaillé très longtemps sur ce questionnaire, sur l'algorithme aussi pour dire que tu es à risque, donc la pondération du questionnaire. Ensuite, on a lancé cette première version qui a d'ailleurs accroché, donc juste en version questionnaire. Pour aller plus loin, c'est d'ailleurs à ce moment-là où à 42 j'ai fait deux programmes HEC, un certificat digital entrepreneur. Et le Startup Launchpad, qui est un programme d'incubation de 2 mois avec HEC. pour monter de business plan, pour revoir un petit peu le contenu, comment est-ce qu'on gagnait de l'argent. Donc on a développé l'application, on a développé le bac avec l'algorithme qui va calculer. On a développé également l'espace pour mettre les contenus avec les news. On a passé à peu près un an sur cette application. On s'est retrouvé très rapidement confronté à une problématique qui est d'ailleurs la problématique de beaucoup d'entrepreneurs, le manque de temps. Parce que du coup, je travaillais avec une gynécologue et un pédopsychiatre qui avaient tous les deux leur cabinet, qui exerçaient également dans les hôpitaux, et donc qui n'arrivaient pas à remplir les contenus, qui n'arrivaient pas à remplir les nouvelles. Et au bout d'un moment, sans ces contenus, l'application n'était pas, on ne pouvait pas la mettre sur le marché. Donc on a arrêté aussi au moment où je suis rentrée dans ma thèse.
D'accord. Ok, c'est un projet que vous avez mis en stand-by. C'est...
Alors moi, je la reprendrai bien, cette application, avec un peu de temps, parce que, comme je vous l'ai dit, je travaille entre le travail et la maison. Il y a des fois, il faut faire des choix. C'est un projet qui m'a vraiment porté, moi, parce que quand j'ai eu mon fils, j'ai fait une pré-éclampsie, quelque chose qui, si j'avais rentré mes résultats dans une application telle qu'on l'a développée, mes résultats d'analyse de laboratoire, j'aurais su. Moi, le médecin le savait, mais il ne m'a jamais prévenu. Donc ça résolvait quelque chose qui était très douloureux pour moi, parce que j'ai accouché à 7 mois de grossesse, mon fils a fait un mois et demi d'hôpital, et c'était évitable. Et c'était évitable par cette application-là. Ça résolvait aussi des problèmes que la gynécologue et le pédopsychiatre voyaient souvent, eux, en consultation, sur la dépression du postpartum, sur les séquelles qu'il peut y avoir sur les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il y a eu une dépression pendant ou après la grossesse. Donc je pense et j'espère qu'un jour j'aurai le temps de la reprendre, parce que je pense qu'on peut, on peut avoir aussi un impact sur les femmes.
Ah bah écoute, ouais. On espère que tu trouveras le temps, parce que c'est vrai que c'est un projet, moi qui suis mère, c'est vrai que c'est un projet impactant et important.
J'avoue, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus, je suis pas encore maman, mais je suis certaine que oui, ça, j'en aurai besoin un jour, sûrement. Alors on va finir avec la dernière question. Quel est ton tips, le conseil que tu donnerais aux femmes qui veulent se lancer dans une carrière de développeuse ?
D'y croire et de se donner les moyens surtout. Si on se donne les moyens d'y arriver, on y arrivera.
D'accord, se donner les moyens, pour toi, ça signifie quoi de manière très concrète ?
Ça signifie pas s'arrêter sur les exercices qu'on te donne, mais aller plus loin à chaque fois dans ton apprentissage. Ça signifie s'investir dans tes apprentissages, dans ton travail. C'est la réussite d'une carrière, elle va être en adéquation avec ton envie de la réussir. Et si tu as envie, tu vas pouvoir soulever des montagnes derrière.
Très bonne conclusion. Et effectivement, parce qu'on dit toujours, j'adore dire, c'est la dernière question.
Ouais.
Mais c'est jamais la dernière question. Bon, écoute, avant de te remercier, Stéphanie, finalement, qu'est-ce que tu appréhendais le plus en sachant que tu allais faire ce podcast, et voilà. Et est-ce que ça s'est avéré vrai?
Je pense, parce que j'ai une opinion assez différente de beaucoup de femmes sur la parité. Comme j'ai dit, la parité, oui, mais pas au détriment de la qualité. Je pense que c'est un peu ça que j'appréhendais, les avis divergents sur le sujet.
Bon, bah, effectivement, c'est ton avis et il est totalement respectable. Donc, pas de souci par rapport à ça.
Nous, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour prendre ce qu'on a à prendre et essayer d'aider maximum de femmes qui veulent se lancer dans cette carrière.
Et je pense qu'il faut qu'elles essayent et qu'elles réussissent.
Écoute, on va se quitter sur ces mots. À bientôt.
À bientôt.
Merci Stéphanie.
Merci.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.